Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et tu t'apprêtes à écouter en podcast un épisode du talk show de Pouscapé, Dis les termes. À chaque émission, un panel de professionnels va débattre sans langue de bois sur le rap. Allez, bonne écoute. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic pour Pouscapé et t'es branché sur Dis les termes. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui hante les rappeurs. Ça arrive souvent après le premier album, le second, peut-être le troisième. Je parle bien sûr de la longévité. Alors, il y a très peu de rappeurs qui réussissent à excéder les 5 ans de carrière. Et c'est parce que c'est très compliqué aujourd'hui d'être écouté pendant très longtemps. Et pour en discuter aujourd'hui, j'ai un invité de marque avec moi, Soso Maness. Ça va ou quoi ?
Ça va, impeccable.
Ça fait plaisir de te voir.
Ravi d'être là. J'ai déjà vu deux émissions.
Ouais.
Pour moi, c'était important de participer à cette belle réunion. Pour pouvoir échanger, de faire d'autres formats. C'est pour ça que j'ai insisté auprès de Pouscapé pour venir dire les termes.
En tout cas, on est super content de te recevoir. Et surtout, on sait à quel point tu es bon dans la promo. Et ça, tout le monde doit te le dire. Donc forcément, t'avoir sur des débats comme ça, c'est vraiment un plaisir. Comme d'habitude, il y a l'équipe de choc. Alors, je vous laisse vous présenter. Tout d'abord, on a Tired. Comment tu
vas? T'es pas prêt.
Il parle déjà en anglais. My name is Busca Colombien. Je rigole.
Cancel culture.
Je rigole. Nico, Busca Colombien, animateur, journaliste chez Bouscapé. Comme d'hab, ça bouge pas.
Le chroniqueur sale, youtubeur, analyste, beatmaker à mes heures perdues.
Kersh, fondateur du média Rapélite et éditeur aussi à mes heures perdues.
Et enfin
Florian, 135 Média, une boîte de conseils pour les rappeurs.
Parfait. On peut rentrer dans le débat. Je vais commencer avec toi.
Dis-moi.
Alors, là, on va parler aujourd'hui de la longévité des artistes. Et justement, toi, aujourd'hui, quand tu regardes l'ensemble du paysage du rap français, depuis les années 90 à aujourd'hui, globalement, qu'est-ce que c'est pour toi une carrière qui a une longévité et qui est riche?
Une carrière longévité, franchement, en vrai, tu sais, il y a des noms d'artistes qui reviennent souvent. Je te dirais Booba, je te dirais Alonso, je te dirais Rimka. Tu vois, parce que pour le coup, je pourrais te dire Sopra aussi. Sopra, il a pris un virage
qui est plutôt pop.
Ouais, c'est plutôt pop, c'est tout à fait respectable, tu vois. Mais c'est différent, tu vois. J'en parlais avec Alonso récemment, tu vois. Il disait que lui, il était toujours resté proche de la street parce que lui, ça lui plaisait, tu vois. Mais qu'à un moment donné, tellement ça s'était ouvert, il aurait pu aller faire les enfoirés aussi. Mais il a préféré revenir avec un morceau street pour rester proche à tout ce qu'il avait fait tout au long de sa carrière. Donc en vrai, je te dirais E3 et comment. Maintenir une longévité dans le rap, c'est, pour moi, c'est savoir s'adapter. Je pense que c'est une des clés aujourd'hui, savoir s'adapter à toutes les périodes. Tu vois, à un moment donné, il y a eu l'arrivée de l'autotune, il y en a qui n'ont pas voulu parce qu'ils ne voulaient pas chanter, sauf que ceux qui ont chanté, ils ont réussi. Tu vois, ils ont continué d'avancer. Ce n'est pas une obligation, tu n'es pas obligé de chanter. Tu vois. Mais c'était à un moment donné, il fallait le faire. Après, il fallait s'adapter aux nouveaux réseaux sociaux, au nouveau public qui arrive. Il faut savoir parler à ces gens-là. Et au final, c'est des choses... qui contribue à la longévité d'un artiste dans le rap.
Je pourrais rajouter à la liste Medine, qui est là depuis quand même un sacré bout de temps.
C'est vrai qu'on l'oublie souvent.
Kerry.
Ouais.
Oxmo. Mais il fait moins de choses, mais toujours là quand même, de temps en temps, on fit et tout. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de formule magique, mais comme il a dit Nico, à mon avis, le truc le plus important, c'est de savoir réussir à consolider, à garder sa fanbase du début. Mais réussir à parler malgré tout aux nouvelles générations, parce que ça va très très vite. Quand tu vois déjà, allez, t'as 8, 10, 12 ans d'écart avec quelqu'un, tu vois déjà que culturellement, on n'est déjà plus du tout sur les mêmes rêves, ils ne se sont pas pris les mêmes choses. Et si t'arrives, je pense en tout cas, très rapidement à renouveler ton auditoire, sans cesse le renouveler tout en gardant ceux de base, pour moi c'est ça. Et ça passe comment? Ça passe par réussir à leur parler. Et donc, rester toujours ouvert sur les nouvelles sonorités, les nouvelles rêves. Au-delà même du rap, c'est savoir s'adapter à chaque bain culturel de chaque époque, en vrai. Parce que si tu restes que dans ce que tu savais faire ou avec tes rêves d'anciens, ça va être compliqué de continuer à parler aux plus jeunes. Et la longévité, si on parle de longévité, là, on a cité des exemples, c'est, on est quand même sur 3 décennies. Mmh. T'es obligé, à un moment donné, de revoir tes références pour t'adapter à un nouveau public qui n'a plus forcément les mêmes attentes, qui n'a pas forcément les mêmes sonorités en tête, les mêmes flows, les mêmes... Et si t'arrives à t'adapter à tout ça sans te travestir, pour moi, c'est ça qui fait la longévité, je pense.
Ouais, moi je peux ajouter à la liste McTayer.
Ouais.
Aussi.
Moi, je pense qu'il faut déjà être en phase avec la nouvelle génération. Il faut aller taper à la porte du bon featuring, même s'il a 10 ans de moins que toi, mais au bon moment, pour lui montrer aussi que toi aussi, tu sais rapper. Moi, en ce qui me concerne, sur les albums, j'ai vu, quand c'était la Dirty, tout le monde faisait la Dirty.
D'ailleurs, McTayer a été le premier rappeur français à se mettre à la Dirty.
À la Dirty. Hein. Après, il y a eu la Trap. Mm-hmm. T'as eu d'autres mouvements. Et t'as plusieurs rappeurs qui ont su s'adapter sur chaque album. Mm-hmm.
Ben, c'est bien ce que tu dis, parce que là, il y a une nuance intéressante à faire. Il y a l'adaptation et il y aurait surfer sur ce qui est tendance. La question, en fait, que j'ai envie de te poser, c'est aujourd'hui, quand t'es un artiste, pour avoir une longévité, est-ce qu'il faut surfer sur la tendance ou bien il faut peut-être s'adapter? Mais du coup, c'est quoi la différence, tu vois?
Alors, il y a faire croire que tu t'adaptes, okay, mais en vrai, tu es en train de surfer.
Ok.
Tu vois ce que je veux te dire? Okay. C'est juste avoir un coup d'avance sur ce qui va arriver. Mm-hmm. Et t'en as, c'est des cracks. Donc, ils arrivent à anticiper la tendance, mm-hmm, mais en vrai de vrai, ils surfent.
D'accord. J'aimerais bien que tu... Du coup, tu me donnes des exemples parce que c'est super bien expliqué.
Par exemple, moi, le track que je me suis pris d'un ancien que je kiffe, à qui j'ai fait des références dans mon dernier album, c'est le track de G6 et Damso.
Ouais.
Tu vois ce que je veux te dire? Mm-hmm. Pour toi, c'est du surf ou c'est de l'anticipation?
Alors, leur track à eux est sorti quand par rapport à ce que toi, tu as fait?
Chris, tu dois dire les termes, là.
Non, justement, en fait, je veux juste comprendre le timing, en fait.
Sur le track, ouais, qu'ils font, on peut croire...
Ouais.
On peut croire que c'est
opportuniste.
Voilà, on peut croire que c'est opportuniste.
Ouais.
Mais sinon, mais la prise de risque, elle tue.
Ouais.
Tu vois ce que je veux te dire?
Mais limite, quand t'écoutes le morceau, tu sais même pas qui est l'ancien.
Voilà, ouais, tu sais même pas qui est l'ancien.
Ouais.
Mais quand, pour rebondir sur ce que je viens de dire à l'instant, c'est pour moi, en fait, ce que tu dis, c'est la différence entre surfer ou s'adapter, c'est que celui qui s'adapte, celui qui arrive à le faire en anticipation, avant que tout le monde le fasse, mm-hmm, et celui qui surfe, entre guillemets, celui qui arrive un peu trop tard, une fois que tout le monde l'a fait.
Voilà.
Et je pense que le truc intéressant avec ce que je viens de dire sur This Is, pour moi, il a pas suivi un mouvement, c'est-à-dire qu'il a anticipé quelque chose en train d'arriver dans le rap, et c'est ce qui fait que c'est frais. C'est-à-dire qu'il le fait dans un an le même morceau, on se dit, vas-y, c'est un peu balourd, comme un peu à l'époque, quand t'as la trap qui est arrivée, mm-hmm, bah, il en faisait déjà un peu avant. Ça fait qu'en gros, ça n'a pas fait genre il arrivait à ouais, contre-courant, que certains ont commencé à en faire, mm-hmm, limite 2-3 ans après, tu vois, quand c'est obligatoire de le faire. Ouais. Et à ce moment-là, tu passes pour un mec qui un peu ringard, qui essaie de s'adapter, tu vois. Mm-hmm. Donc c'est compliqué, il faut réussir à s'adapter au moment où c'est pas encore ringard. Le mec, il se met à faire de la drill maintenant. Je sais pas, imaginons, si Kerry James revient et fait de la drill à la fin de l'année.
Ouais, ça va pas le faire.
Bah, il l'aurait fait il y a un an où le truc où commence à arriver, on peut dire, ah, putain, Kerry James s'est fait un kiff, il l'a fait, tu vois.
Ouais.
Mais s'il le fait dans un an et demi, on aura capté qu'en fait, il a raté le coche.
C'est déjà trop tard. Hein.
Un ancien qui nous fait une two-step en décembre, il est mort.
Ouais. Et moi, je pense je pense au-delà de la partie musicale, c'est-à-dire savoir se régénérer, comme tout le monde a dit, je pense que c'est aussi avoir une vision assez pragmatique de sa carrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand t'arrives et que t'es nouveau, t'es comme ça, mm-hmm, t'es en plein buzz, t'es nouveau, il y a l'engouement, etc., tout le monde t'appelle, tout le monde a envie de faire quelque chose avec toi. Mais à un moment donné, quand t'as pété, quand t'as fait ton premier projet, peut-être disque d'or, ou deuxième projet, disque d'or, après t'es plus ou moins comme ça. Mm-hmm. Comment est-ce que tu dois faire en sorte de rester en place? Bien sûr, faut se régénérer musicalement, et il faut aussi avoir la prise de recul de parfois se dire... Là, faut peut-être pas que je sorte. Ouais. Parce que je suis peut-être pas prêt. Là, finalement, si je rentre dans l'ego de faire la bagarre avec les jeunes. Parce que, par exemple, t'es chef du rap de rue, mmh, à un moment donné. Ou t'es chef de la hype. Peu importe. Mmh. Il y a des nouveaux qui vont arriver. C'est générationnel. Mmh. Donc, est-ce que je veux, bien sûr, comme il disait Soso, faut trouver les bons feats que tu peux faire. Mais comment est-ce que je fais pour finalement rester en place, mmh, en ne sortant pas, par exemple? Des fois, peut-être, tu vas continuer ta carrière avec des featuring. Il y a aussi le côté business. Comment est-ce que tu gères ton business? Parce que ça, c'est important. Parce qu'une bonne carrière, faut que tu sois bien entouré. Et peut-être ton entourage du début de quand t'as buzzé, c'est pas ton entourage de quand tu vas perdurer. Quand tu dis, bah, moi, les gars, je rentre dans une économie où peut-être je vais sortir tous les 2-3 ans. Ah, finalement, bah, les potes ou même les gens qui sont vraiment là, ils soutiennent, bah, toi, t'es une entreprise à un moment donné. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, la musique et le business sont liés. C'est que les mecs, ils peuvent se dire que quoi? Bah, c'est pas qu'ils vont pas continuer avec toi, c'est que tu vas régénérer même ton entourage musical, en vérité. Mmh. À un moment donné, tu vas chercher des nouveaux compos, tu vas chercher des gens qui peuvent te conseiller pour mener à bien sa stratégie. Je sais pas si vous voyez ce que je parle là.
Tu parlais de
prendre des pauses de 2, 3 ans, etc. Aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas compliqué pour un jeune artiste de pouvoir perdurer dans le temps comme ça?
Je sais pas si on a... Nicolas, je sais pas si on a la réponse à cette question. Nicolas doit avoir la réponse, Soso doit avoir la question. Par exemple, tu vois un artiste comme Soso qui a sorti un album en 2019, 2020, 2021, et là, en 2022, il s'apprête à sortir un nouvel album. Il a un rythme de croisière qui est assez élevé, mm-hmm. mais parce que Soso, quand il arrive aussi, il est dans un contexte particulier où faut qu'il marque, il marque, faut qu'il
l'envoie. Plus 20 ans.
Voilà, exactement. Faut qu'il enchaîne. Tu vois ce que je veux dire, ou faut qu'il sécurise sa place, on va dire, si je devais le dire vulgairement. Mais parfois, à un moment donné, le fait d'être en tout le temps, bah, ça peut te desservir. Mm-hmm. Et le fait d'attendre, ça peut te desservir aussi. Mais quand tu vous regardes des PNL, ils peuvent ne pas être là pendant 3-4 ans, ils reviennent.
Ah, mais c'est PNL, ouais, mais
c'est pas leur com. Est-ce que c'est pas des artistes comme ça?
Mais à un moment donné, ce que je veux dire par là, c'est qu'on parle de longévité. Mm-hmm. PNL vont peut-être plus durer que certains parce qu'ils peuvent peut-être prendre justement cette pause de 3-4 ans et revenir, ça casse tout. Et peut-être que d'autres artistes
Après, des artistes moins gros comme Youssoupha, qui laissent aussi du temps.
C'est pour ça que je dis.
Moi, je tiens à préciser que maintenant, sortir tous les ans, c'est un rythme normal.
Oui.
C'est plus un rythme soutenu. Mais moi, j'ai même l'impression que j'ai mis trop de temps à ressortir.
Je pense, moi, je dis peut-être entre 12 et 18 mois, c'est un rythme normal pour moi. Et je suis d'accord avec toi. Mais sauf que comme on parle de longévité, à un moment donné,
tenir le rythme. 15 ans à un moment donné,
on va pas se mentir, c'est pas un sprint, c'est une course de fond.
Oui, maintenant, il y a d'autres stratégies. Maintenant, tu peux faire la promotion sur un single.
C'est ça.
Pour prendre la place, t'as les albums en commun.
T'as les featuring aussi.
T'as la réédition.
Et puis, il n'y a pas une seule vérité, en vrai. C'est-à-dire on parle de, par exemple, des trois, quatre gros artistes complétés, là, dans la même période. En gros, t'as PNL, Nekfeu, Jul et Nino qui pètent en même temps. Et il y en a deux qui sortent tout le temps. Un plus que l'autre.
Un peu moins.
Quand je dis, c'est les mêmes catégories d'années. C'est 2013, 2015.
Ouais, entre 2010 et 2020.
Qui ont maintenu le cap jusqu'en 2022.
Voilà. En gros, voilà. Eux, ils ont tous émergé plus ou moins dans le début des années 2010. Et en fait, ils ont fait des choix différents. C'est-à-dire qu'en gros, t'as PNL, Nekfeu qui sortent ultra rarement. T'as Jul et Nino qui sont beaucoup plus productifs. Et il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre. C'est que ça dépend des carrières. Et ce que dit Jekker, c'est peut-être qu'à un moment, quand tu sens qu'à trop sortir, tu commences un peu à essouffler tes gens, peut-être que tu ralentis. Mais c'est ce qu'a fait Alonso à un moment. À un moment, Alonso, il disait, je fais un album tous les 6 mois. Et il est passé à 12 ou 18 mois, tu vois. Parce qu'à un moment, il a aussi ralenti en voyant les choses.
Enfin, juste pour rebondir sur Alonso, je pense que c'est aussi un artiste qui sort d'une grosse carrière en groupe. Après, quand il part en solo, c'est pas forcément le même succès.
Oui,
et à partir du moment où il sent qu'il y a la Belle Vie, Bellucci, Boîte à Chaussures, etc., qui commence à prendre, je pense qu'il se dit, c'est maintenant ou jamais. Je pense qu'il y a des artistes, tu sais, comme Soso, comme Fianso, comme Alonso aussi, parce que quand il commence sa carrière solo, ça prend pas tout de suite et tout. Tu vois, quand tu sens que tu galères, que au début tu y arrives pas, et dès que ça prend, t'as envie de confirmer ton truc, tu vois, et t'es productif de ouf derrière et tu veux plus lâcher le truc jusqu'au moment où c'est confirmé. Et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, un artiste comme Soso, pour moi, ça s'est confirmé, tu vois. Tu peux réduire ta cadence, mais je pense que dans l'air du temps, c'est très difficile de s'absenter plus d'un an.
Je vais te dire, frérot, la vraie réalité, j'ai pas 20 ans, tu vois ce que je veux te dire, je sors mon 4e album, c'est que c'est à l'artiste en premier de se regarder dans un miroir.
Exactement.
Et de se dire s'il a les qualités, et s'il continuer. A la public, et s'il a la bonne musique pour ressortir un projet. Parce que tu peux mentir aux gens, mais tu peux pas te mentir à toi-même. Par exemple, Fianso, c'était abusé. Je suis passé ces choses. Et après, ça s'est essoufflé de plus en plus. On peut réfléchir à un milliard de facteurs du pourquoi, du comment. Mais si nous-mêmes, on sentait qu'à un moment, ça allait s'essouffler, c'est que même lui devait le savoir au fond de lui. Tu vois ce que je veux te dire?
C'est vraiment au cas par cas. Ouais.
C'est vraiment au cas par cas.
Ouais,
mais si tu es vraiment conscient de ta musique et des premiers jets que tu as envoyés, tu sais s'il faut que tu sortes ou pas.
C'est pas à ce moment qu'intervient l'ego et tu te dis...
Moi, je crois pas.
Peut-être que tu es en mode, tu sais que ça prendra peut-être plus, tu sais que c'est pas le moment aussi peut-être pour toi de sortir un projet, mais tu vas sortir juste pour qu'on te voit encore.
Mais non, frérot, tu sais pourquoi tu vas sortir? Tu vas sortir parce que tu dois récupérer la quicheta de ta maison de disque.
Voilà, parle français, dis les termes, enfin, merci, on peut c'est enclencher. Tout. Il a dit les termes, ça y est, on va enclencher maintenant.
Par contre, je suis d'accord avec Nico, il y a plein d'artistes, à un moment, ils se disent, si je suis absent trop longtemps, on va m'oublier.
Oui,
et des fois, même si c'est certes que le truc est pas tout
bon,
à fait fini,
juste pour pouvoir leur place un peu.
À défaut de, si je décale et qu'on m'oublie, vaut mieux sortir un truc un peu moins bien, quitte à que je sorte un truc un peu mieux après. Et
c'est vrai,
quand même.
C'est vrai, mais attends, il y a deux paramètres.
Alors, je vais te laisser reprendre, Kirsch. Là, t'as donné un exemple intéressant, mais est-ce que toi, du coup, de tête, t'as un artiste en tête, musicalement parlant, qui a fait justement cette erreur-là de sortir trop tôt, en se disant il faut quand même que j'existe.
C'est compliqué parce qu'en gros ça veut dire que je vais dire le nom de quelqu'un avec qui je vais bosser, tu vois.
D'accord, ok, bon, ça.
Mais effectivement, moi je le vois plein de fois.
Tu dis les termes, mais qu'à moitié.
Non, mais exactement, parce qu'il y a plein de fois où en fait il y a ce truc de. Moi je le vois vraiment, ce truc de. Que les équipes ont vraiment ce côté, il faut pas qu'on soit absent trop longtemps, oui. De peur qu'on nous oublie. Mm-hmm. Et il y a des fois, ça donne une date, genre faut sortir en mai. Mm-hmm. Et plus la date arrive, plus tu sens que t'es pas dans les bonnes conditions.
Ouais. Tu forces la dynamique.
Et tu te dis, vas-y, je sors quand même. Et puis il y a un autre élément, comme Nissoso, un. Il y a effectivement que tu as des questions financières de quand sort l'argent qui rentre. Et il y a aussi un autre élément qui est, pour le coup, plus de la part des maisons de disques que des artistes. C'est que l'artiste, en vrai, lui, il a sa logique à lui. Genre, il sait qu'il sort son projet, il gagne son argent, etc. Sauf que la maison de disques, elle a des budgets annuels. Mmh. Dans lesquels elle dit, je dois sortir X projet à quel moment. Et je justifie le budget que je dois avoir en avance, en gestion de projet, etc. Mes fonctionnements par rapport au nombre de projets que je vais sortir. Mmh. Et eux, ils ont plus de problématiques quand un projet est décalé qu'un artiste. Mmh. Un artiste, quand un projet est décalé, il se dit, ouais, c'est pour mon bien, je peux attendre. Mmh. Des fois, maison de disques, elles ont ce truc, OK, j'ai dit que dans mon semestre 1, je devais livrer tel ou tel artiste et faire X ou X ventes. Si je le sors pas, c'est relou. Parce que moi, j'ai justifié à l'international un budget de X. Mmh. Et donc, souvent, tu vas avoir une maison 10 aussi qui pousse. Mmh. En disant, vas-y, c'est bon moment, faut que tu y ailles. Là où l'artiste, lui, dans son économie à lui, son projet-là, s'il plante, ça a plus d'impact pour lui. Tu vois, donc il peut essayer de le temporiser. Mais à ce moment-là, il se dit, est-ce que si j'attends, les gens, ils vont pas m'oublier? Et même si mon truc, j'en suis pas tout à fait sûr, à un moment, faut y aller, quoi, tu vois.
Il y a aussi un facteur qu'on oublie et qu'on oublie de parler depuis tout à l'heure, c'est de comment t'as évolué avec ta fanbase.
Ouais, et ça, c'est super.
Je voulais y revenir aussi. Pour moi, ça, c'est hyper important. Ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure quand tu disais normalement, même toi-même, tu dois le savoir. À un moment, tu sais si tu peux te permettre de te raréfier un petit peu ou s'il vaut mieux que tu... Parce que même nous, on n'est pas à la place de l'artiste. En tant qu'auditeur, moi, il y a plein d'artistes, je suis persuadé, aujourd'hui, ils peuvent s'absenter 3 ans, il n'y a rien. Et d'autres, je dirais non, toi, il faut que tu continues à taper, il faut que tu gardes ta présence, vraiment. Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre. C'est juste par rapport à la manière dont les gens qui t'écoutent te consomment. Il y a des gens, il y a des artistes aujourd'hui, ils ont une capacité à faire consommer leur musique, entre guillemets, très très forte. Ça veut dire le public qui les aime, qui les suit, ils seront jamais contre qu'il y a même ça. Ils sortent tous les 4 mois, ça va streamer fort parce que c'est il y a beaucoup de consommation. T'as d'autres artistes où les gens ils ont un taux d'engagement où ils ont créé un lien très très fort avec l'artiste. En général ceux qui ont imposé une esthétique ou un style sonore au coquet. Et ceux-là ça y est c'est ancré. Ça veut dire aujourd'hui ils peuvent se permettre de disparaître 3-4 ans. Quand ils reviennent, de toute façon, les gens ils seront encore là. Donc c'est deux manières de gérer sa carrière en fonction de ce que tu proposes.
Et tu sais, moi j'ai la chance de parler souvent avec ces rappeurs et on aime bien échanger. Et tu sais ce que je leur dis? Ne sors pas, laisse-les se gratter les veines. Comme si c'était des toxicomanes. Tu vois ce que je veux te dire?
Ouais, parce que le côté rare, il remet encore de...
Voilà.
Finalement, c'est le fait de se rarifier qui remet une pièce dans la machine.
Exactement.
Lorsque tu parlais de te rarifier justement de ces artistes-là, est-ce que lorsqu'ils reviennent, est-ce qu'ils n'ont pas plus d'efforts à faire justement par rapport aux autres?
Ah ouais, c'est vrai.
C'est la com qui fera tout.
Pas forcément.
Quand tu as attendu comme ça, quand tu reprends la parole, ouais. Attention, ton truc, il est moyen. Mmh. On a eu un exemple. Shai, pendant 3 ans.
Après, c'est un single.
Mais... Frérot, quand elle revient avec le single, premier track, là... Pas celui-là, là, celui d'avant de l'album précédent.
Joli.
Ah, oui. Incroyable,
oui.
Le clip,
ah oui, voilà,
etc.
Elle
fait l'unanimité. Mais là, 3 ans d'entente, qu'on n'aime pas, etc. Mais quand tu mets 3 ans pour revenir et que ce n'est pas l'unanimité, pour reprendre la parole, ça va être compliqué.
J'ai un petit contre-exemple. Après, on parle de Ninho, mais Ninho, quand même, avant de sortir Réfé, il s'absente du coup peut-être 1 an et demi avant. Enfin, en fait, il fait une annonce en disant qu'il va s'absenter, qu'il va être beaucoup moins présent sur le devant de la scène parce qu'il a besoin de prendre une pause, parce qu'il a besoin de repartir un peu à zéro dans sa tête. Et quand il revient sur Réfé, il fait un effort parce qu'il se remet au travail, tu vois. Mais en soi, quand le projet, il sort, bah, ça casse tout. Et est-ce qu'au final, il a eu à faire tant d'efforts que ça auprès de sa fanbase, tu vois? Après, attention, je ne compare pas Shai et Ninho.
Ouais, voilà,
c'est pas
sûr.
Les mêmes carrières.
Mais les gars, moi, je pense aussi la longévité. Je pense, après, vous me dites si je me trompe ou quoi, mais ceux qui sont là depuis peut-être, 2000, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que est-ce qu'on peut juger une longévité sur 10 ans? Oui, mais pas comme si tu l'as jugé sur 20 ans.
Je peux ajouter autre chose. C'est financièrement parlant. C'est quoi? Parce que finalement, un artiste, il peut sortir un album tout le temps. Et comment nous, on le juge finalement, financièrement? Comment vous le jugez?
Quand tu dis financièrement, tu parles de quoi exactement?
C'est-à-dire en termes de vente, très clairement, un artiste...
Mais justement, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, moi, je pense que le problème qui se pose, c'est que l'ego, comme il disait Nico tout à l'heure, c'est que si tu rentres trop dans l'ego, quand t'as un artiste qui commence à prendre de l'âge et qui commence à... Même si t'as une fanbase que t'as constituée, forcément, à un moment donné,
mm-hmm. il se peut que ça fasse comme ça. Mais t'as toujours une fanbase. Ouais. Mais si tu veux toujours être aussi dans cette guerre du game, de vente, de je faisais des vues comme ça avant, je faisais des streams comme ça avant.
Parce que c'est ça la longévité finalement, non?
Non, parce que la longévité, okay. c'est faire ce que tu kiffes en fait.
Mais dans ce cas, c'est pas si difficile.
Mais non, mais pas forcément, parce qu'en vérité, il y a des artistes aujourd'hui comme Rimka, comme Mac Taher, qui sont. Rimka, je crois, c'est l'enfant du pays, il sort en 2004. Mac Taher, le général, ça sort en 2006. Mm-hmm. On est en 2021. Dernier projet de Rimka, je crois que c'était en 2018 avec Mutant. So, je crois que c'était en noir avec, en 2021. En fait, à un moment donné, les gars ont leur modèle économique, ils font leur musique, ils kiffent. Comme il dit Soso, ils sont régénérés, ils sont toujours là. Est-ce qu'ils ont le temps de se comparer déjà en termes de niveau à des artistes plus jeunes qui sont là depuis 3-4 ans? Je pense pas. Même s'ils
sont pas forcément de niveau. Hein.
Oui, voilà.
Mais juste en termes de vente.
Voilà. Mais à un moment donné, mais c'est comme tout. Et justement, ça va venir sur l'argent parce que c'est un sujet aussi. Mmh. À un moment donné, on n'est pas dans les comptes des artistes, mais. T'arrives à vivre de ta musique un minimum, ton entourage arrive en vivre, ta famille en vit, tes enfants grandissent bien, toi tu kiffes, mais pourquoi tu vas aller chercher à vouloir faire la quicheta du type qui vient d'arriver il y a 4 ans? C'est irréel en vérité. En fait, c'est un cercle vicieux. En fait, tu cours après quelque chose qui peut être compliqué. Peut-être que certains peuvent réussir. Mais si tu as ton modèle économique qui tourne, par exemple, un saut, il est aussi dans la mode, dans les sables, c'est un truc qu'il a toujours kiffé, dans le visuel, etc., comme il disait Soso, bah, à un moment donné, il se développe. Rimka, il fait peut-être d'autres projets aussi personnels à côté, et les mecs, ils s'épanouissent, et quand ils sortent un projet, peut-être soit tous les 2 ans, soit tous les 3 ans, soit tous les 1 an, et bah, leur fanbase est là, et je pense pas qu'ils se disent « Ouais, mais comment ça se fait que j'ai pas la fanbase que j'avais il y a 10, 15 ans, nanana ?» En fait, à un moment donné, je pense qu'il y a longévité musicale
c'est ça que j'allais
et longévité
dire.
Financière.
Voilà, c'est
à
ça.
À un moment donné, c'est pas la même chose, c'est pas le même sujet. Si tu te fais plaisir de ta musique...
Il n'y en a quasiment aucun.
Oh, mais là, on parle de quelle longévité
c'est pour ça que je vous demande.
Moi, je te parle d'un artiste qui fait des tournées et qui est dans le top 10 quand il sort un album.
Ouais, mais à un moment donné...
Sinon, frérot, je connais des rappeurs, ils ont
60 ans, ils rappent encore. Mais c'est trop marrant. C'est que vous me dites « Ouais, faut toujours faire la d'avant, mais en vérité, qui
non.
en vérité non, mais attends,
c'est pas
non,
sujet.
Non, mais non, les gars, non.
Très peu d'artistes qui ont de longévité.
Ouais, mais justement, le problème,
il y en a,
mais
il y en a qui la crime, on peut parler de longévité, les gars.
C'est ce que je vous dis, mais c'est pour ça qu'on oriente le débat sur le genre art. Ok, très bien. Les mecs qui ont commencé au début des années 2000 et qu'on est en 2020, qui sont encore dans le top, vous dites combien? Top 20, top 50? Spotify chart, quand ils sortent leur album, c'est quoi? On parle de quoi? Il y en a combien?
Il y en a deux?
En vrai, il y en a deux. Booba et Rimka. Rimka,
c'est tout?
Mac Taher.
Non, t'en pas dans le top 20.
Mais comment ils le sont avec Nino?
Oui, mais c'est-à-dire
ils le sont avec Freeze non. et ils le sont avec les gars.
En solo, il y en a qu'un seul, c'est Booba.
C'est ça qui te demande.
Depuis 2000?
Non, ouais. un des mecs des années 2000.
Et même Booba, pour moi, c'est lui qui a permis et c'est lui qui a rallongé la vie des
bien
rappeurs.
Sûr, oui.
Tu vois,
mais vous me parlez d'argent.
Mais c'est important de parler d'argent. Oui, on parle de musique business en fait.
Moi, tu parles de musical. Est-ce que tu es encore dans le jus?
Non, mais nous, on kiffe. Il y a des artistes, tu sais, il y a des artistes aujourd'hui qui sont pas forcément là.
On y va, les gars.
Mais on les apprécie et ils sont pas forcément cette longévité.
Ils font pas de joueurs, c'est ça que tu veux dire?
Aujourd'hui, on parle des artistes qui sont signés. On parle d'artistes qui sont signés. Et est-ce qu'aujourd'hui, des artistes continuent à vivre de leur musique?
Prenons un exemple concret. Là, récemment, t'as un artiste qui s'appelle Seth Gecko qui a annoncé qu'il faisait son dernier album.
Très bon exemple.
En vrai, aujourd'hui, Seth Gecko, s'il continue à rapper, il a une fanbase qui va le voir en concert, qui achète son merch, qui va même à son burger et qui va écouter sa musique. Alors certes, il n'est pas dans le top 10, mais en vrai de vrai, sa musique, si on parle juste rentabilité, il gagne de l'argent avec sa musique.
Quel
sauf que, pourquoi il arrête? Parce que je pense qu'à un moment, il est dans un truc de, avec la compétition du rap, aujourd'hui, il sait qu'il ne peut pas se battre pour venir dans le top 10. Et est-ce qu'à un moment, on n'a pas un truc dans le rap, on est tellement dans un jeu de compétition que le mec, il se dit, OK, j'ai mon truc, ça tourne tout seul, mais vas-y, moi, si je fais du rap, c'est pour être dans les premiers. Mmh. Donc, pour pas être critiqué parce que je suis pas dans les premiers, je préfère arrêter.
Ça, c'est ton interprétation, qui est peut-être vraie. Peut-être juste, il se dit, ça y est, frère, j'ai fait le taf. Peut-être, c'est pas forcément cette histoire d'être dans le top 10 ou pas, tu vois. Peut-être juste, il s'est dit, ça y est, j'ai fait le boulot, tu vois.
Quand on a commencé et qu'on a dit, de quel artiste peut-on parler aujourd'hui en mode longévité? Les artistes qui ont été cités, on a dit Alonso, on a dit Booba, Rimka,
Medine.
Oxmo, mais tu vois, en vrai, Alonso, Rimka, Booba, c'est les artistes, on se dit, ils ont traversé les époques, et quand ils sortent, ils sont dans le top.
C'est
tu
ça.
Alonso, il est sorti là, il est au mid, il est à 8000. Pour moi, il est dans le top. Ça rejoint le truc qu'on disait tout à l'heure, c'est l'ego. Parce que t'as vu, il y a des artistes qui vont se dire, non, je peux pas aller rapper avec des plus jeunes que moi, qu'est-ce qu'ils vont m'apprendre, etc. Tu vois, eux trois, pour le coup, c'est des artistes qui, à un moment donné, se sont dit, c'est ces petits jeunes-là qui arrivent. Ils sont forts. Tu vois, je regardais une interview de Alonso il y a quelques années. Il disait, t'as vu, moi, c'est mes enfants qui me disent, j'aimerais bien te voir avec Nino, avec Kobalade. Et il y va, il le fait. Et qu'est-ce que ça lui apporte à lui? une force, une visibilité, et qu'au Baladé, qu'est-ce que ça lui apporte? Une crédibilité en plus, parce qu'il est à Londres sur son morceau, tu vois.
Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des rappeurs qui se disent le je vais pas, même si c'est le plus chaud, je vais pas faire de feat avec ce jeune?
Moi, je pense que
il y a
cet égo-là qui intervient à un moment et qui est beau. Enfin, c'est pour ça que pour moi.
Non, mais c'est plus l'ouverture. C'est pour ça que je disais qu'après, c'est savoir aussi ceux qui arrivent à perdurer, c'est qu'ils ont une ouverture nécessaire pour comprendre les nouveaux codes.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Alors que souvent, ceux qui n'ont pas réussi à perdurer, c'est peut-être souvent ceux qui se sont dit
ils ont fait des mauvais choix.
C'était mieux avant, ouais. Moi je reste dans mon truc, là c'est
paquet. J'ai une question. On les met où finalement, excuse-moi, chroniqueur, on les met où finalement ces artistes qui, ça fait longtemps qu'ils sont là, mm-hmm. ils ne sont plus forcément dans le top, mm-hmm. mais ils sortent encore des projets. Est-ce qu'on peut considérer ça comme une longévité? Mais c'est une vraie. Non, c'est une vraie question.
Bien sûr, c'est une longévité
musicale, je dirais. Moi, il y a aucun problème.
C'est une vraie question.
Tu vois, quand on dit Médine, pour moi, je le place pas dans la catégorie top. Forcément Booba, Rimka, Alonso. Pour moi, il arrive un cran en dessous, mais il est toujours là. Tu vois, longévité, carrière respectable de fou, le projet, la Médine France, il sort 5 000 en première semaine, tu vois. On parle de chiffres, tu vois, malheureusement.
Ouais, faut parler de chiffres.
Beaucoup de fois, on s'est dit, c'est relou le 1000, c'est relou la première semaine, etc. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est aussi ça qui compare le truc de se dire, lui, il est dans le top, lui, il n'est pas dans le top, tu vois. Alon, c'est 8 000 en 3 jours, tu vois. En première semaine, il sera à plus de 10 000, c'est dans le top.
J'ai juste une question à vous poser, ça fait directement lien avec ce que vous disiez. C'est sur, justement, le fait de prendre des risques, parce que le point commun en fait avec les artistes qu'on a, je pense à Alonso ou encore Booba, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une prise de risque de leur part, on pense à Booba avec 09, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, un artiste qui réussit toujours à être populaire auprès des nouvelles audiences et son audience de base, est-ce qu'à un moment donné, dans sa carrière, il doit prendre des risques?
Même Booba, il en prend des risques.
Bien sûr.
Tu sais pourquoi il prend des risques? Parce que c'est Booba, c'est un rappeur qui est capable de prendre un jeune inconnu et faire un single de Jamo avec. Tu vois, les autres, non.
Tout à l'heure, c'était quoi? On parlait soit de surfer...
Ou de capter la tendance avant.
Voilà, mais c'est aussi ce savoir imposer même toi-même la nouvelle DA de demain, tu vois. Mmh. Souvent, c'est, tout le monde ne va pas y arriver. Mais je pense qu'un mec comme Booba, pourquoi aussi là, il est resté si longtemps? C'est parce qu'à chaque fois, il était capable de se renouveler, même quand on comprenait même pas encore ce qu'il faisait. Tu vois, le 09, c'est
le flair,
parfait exemple.
Faut avoir
et
le
finalement,
flair.
Il arrive à imposer un nouveau truc, c'est lui qui drive.
En vrai, il a un talent de producteur qui on peut pas lui enlever en fait. Tu vois, c'est que il y en a énormément qui essayent de produire des artistes, mais c'est pas facile. Lui, t'as vu quand il s'est mis en mode producteur, c'est là où on a vu que il maîtrisait aussi son sujet. Tu vois, parce qu'il a pris des gars qu'au final on connaît pas vraiment. Tu vois, on peut pas dire que ça a tout le temps marché.
On connaissait pas Damso.
Mais en tout cas, tu vois, quand il prend Kaaris, quand il prend Damso, quand il prend Bramsito, quand il pousse Maes, tu vois, c'est que il a senti qu'il se passait quelque chose. Et ces artistes-là, soit ils font un single de diamant, soit ils font des disques d'or, des disques de platine derrière. Donc, il y a aussi un truc de, au-delà de lui et de sa musique, il y a son truc de producteur qui est
bon
très fort. Tu vois,
vision,
sa vision des choses, c'est costaud.
Ouais,
tu vois.
Mais tous les artistes qu'on a dit, c'est des bousillés au rap aussi. Hein.
Ouais.
Tous les artistes qu'on a cités là,
ouais.
C'est des bousillés de rap.
Quand il dit c'est des bousillés de rap, je trouve qu'il a raison, parce qu'à un moment donné aussi, je pense que la longévité, elle est en fonction aussi du coffre que t'as de base. Mmh. Quand tu regardes bien tout ce qu'on a tous cité à peu près, Booba, Rof, Kerry James, Mac Taylor, Alonso, etc., c'est des mecs qui, de base, je pense, rappaient de base, il n'y avait pas un euro. Ils kiffaient le rap de fou.
Il y a des mecs qui rappaient, qui kiffaient à l'époque, et qu'on parle de s'adapter, parce qu'il y a un élément dont on parle depuis tout à l'heure. C'est qu'on dit qu'un mec qui veut tenir, il faut qu'il parle de la génération. Parce que le problème du rap, en réalité, c'est que le public, il ne vieillit pas tant que ça.
En fait,
passé un certain âge,
on va en parler. Ça.
Les mecs arrêtent d'écouter du rap. Donc, si tu veux continuer dans le top, tous les mecs dont on a parlé, les Rimka, les Alonso, etc., c'est avec le public de maintenant qui sont dans le top. C'est pas avec le public qu'ils avaient à l'époque, parce que le public de l'époque, il a arrêté d'écouter du rap.
Mais il faut avoir du coffre de base.
Oui, mais c'est vrai qu'il y a des mecs, il y a des mecs qui rappent super bien et qui en fait ont pas réussi à s'adapter parce qu'ils ont voulu. Ils ont pas aimé ce que faisait nouveau. Quand tu disais tout à l'heure, il y a même pas une question d'ego. C'est qu'à un moment, un mec aime pas l'autotune. Par exemple, on prend l'exemple de IAM, là, j'écoutais une interview, je crois que c'était Alonso, qui disait que quand ils ont fait le morceau dans Classico Organisé, les mecs étaient un peu frileux pour aller faire l'autre. Et typiquement, IAM, c'est des mecs qui ont réussi à tenir leur carrière sur les mecs qui restent de cette époque-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils faisaient 1 million de CD, maintenant ils peuvent en faire 50 000 parce qu'il y a peut-être 5% des mecs de l'époque qui continuent à écouter du rap.
Ah, mais là, tu compares l'incomparable. Là, tu parles de.
Des murs.
Voilà, des fondations. Là. Oui, comme NTM, mais... demain, s'ils annoncent une tournée, ça va être complet.
Oui, mais ils vont faire.
Mais s'ils font un scud, ils vont pas vendre grand-chose. Ouais. Dans ma gueule.
Mais là, tu regardes les festivals cet été, il y a un mission de partout.
Mais parce qu'ils misent sur l'époque, en fait, parce qu'ils n'ont pas cherché à s'adapter. Ouais. Ils sont dans un truc de notre musique, elle était comme ça, on continue à faire une musique comme ça. Et effectivement, ils n'ont pas cherché à toucher une nouvelle génération.
Moi, je voulais juste rejoindre Kirsch sur le fait qu'il fallait, enfin, il fallait un certain coffre et une certaine connaissance du rap pour perdurer, tu vois. Parce que les mecs dont on parle depuis le début, c'est des mecs qui ont traversé les époques. Ça se voit que c'est des bousiers de rap français, tu vois. Mais si on prend aujourd'hui dans la période actuelle, tu vois, moi, il y a deux artistes qui font partie de la nouvelle génération, même si maintenant, ça y est, ils sont confirmés. Mais je prends PLK et Ninho. Mm-hmm. Tu vois, ces deux artistes, ils connaissent le rap français.
Tu le sais. Même Jules aussi.
Ils ont, enfin, tu vois, c'est, ils respectent le rap. Tu vois, c'est, tu le sens dans leur référence, tu sens dans leur façon de rapper sur des sons.
Des passionnés.
Tu vois, et tu sais que ces mecs-là, tu vois, pour prendre juste eux deux. Mm-hmm. C'est des mecs qui, on pourra peut-être en parler dans 15 ans. Tu vois, dans 10-15 ans, s'ils ont vraiment envie de continuer dans le rap français, ça se trouve qu'ils veulent pas perdurer. Mais c'est des artistes qui pourront se maintenir. Et est-ce que ça rejoint pas ce truc de il faut du coffre?
Bah oui, les gars.
Pour
parce
pouvoir
qu'en fait,
y aller.
Faut kiffer.
Tu vois,
oui, mais que... ça suffit pas.
Mais
ça suffit pas.
Ouais, mais non, ça, non, ça suffit pas, non, 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 ça suffit. Ça suffit. Moi, je pense pas que ça suffit, mais c'est une base qui fait que. Parce qu'à un moment donné.
Tu parles d'un mec qui rappelait quand il n'y avait pas un. Prenons un exemple concret.
Oui, mais
Rof, par exemple.
Ouais.
Tu vois, il partit des mecs qui ont une longue carrière, mais qui a pas réussi à garder la nouvelle génération avec lui parce qu'il s'est pas adapté. Ouais. C'est pas parce qu'il aime pas le rap. C'est qu'à un moment, le rap actuel lui parle moins et que du coup, il a pas voulu faire l'effort de s'adapter.
Oui, bien sûr.
Et
mais
est-ce qu'il a pas de coffre? Non, c'est une condition, mais ça suffit pas.
Mais regarde, ce qui est fou, c'est que justement, on est en 2022 aujourd'hui, tu cites son blaze. Mais c'est déjà ça, en vérité.
Parce que moi, je suis parti d'une génération.
La victoire, en vérité.
Non, parce que moi, je suis parti d'une génération qui l'a écouté dans les plus grosses années. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, mais ce que je veux pas, c'est que moi, je pense que. En fait, je sais pas, c'est comme le sport. Si à un moment donné, t'es pas vraiment déter pour de vrai que c'est chaud, il y a la tempête contre toi, si t'es pas prêt, si t'as pas ton coffre, ça va être chaud. J'ai pas dit que c'est parce que t'étais un gros kiffeur, t'allais passer le truc, t'allais passer la douane. Mais je dis juste qu'en fait, si tu l'as pas, mon ref, si c'est juste pour le plata, les showcases et faire le ya ya ya, frère, 3-4 ans, extinction des feux.
Nico,
c'est tout.
Nico,
en fait, c'est ça.
C'est la vérité,
tu vois, le fait d'avoir ce coffre-là, ça ne fait pas tout. Tu vois, ça, je suis grave d'accord là-dessus. Et en fait, c'est le truc où tu sens les mecs qui sont là pour la passion, parce qu'ils aiment ça et que ils ont rappé trop longtemps sans argent.
Mais la passion, ça remplit pas le frigo.
Ça remplit pas.
Et ça.
Oui, mais quand ça marche.
Et pas les études des enfants.
Oui, mais Soso. Mais quand ça marche, ils ont envie de continuer.
Je te parle en.
Ouais, mais
connaissance
en fait, c'est plus le truc de dire, en gros, quand ça marche, ils ont envie de continuer. Tu vois, alors que ceux qui ont pas ce coffre là, une fois que ça marche, 2-3 sons, 2-3 années, ça tourne en showcase, etc. En fait, ils s'enferment dans ce truc là. Mais la carrière, elle continue pas. Parce que, en fait.
Parce qu'ils aiment pas suffisamment pour s'adapter.
Voilà, c'est ça.
Moi, quand je disais, ils aiment le rap, c'est une musique qui évolue.
Voilà, sur l'adaptation, tu disais un truc intéressant. Le coffre, etc. Bah, ok, tu vas toucher une audience jeune. Parce que le rap, finalement, c'est ça, on en a parlé tout à l'heure, c'est toucher les jeunes, 18-25. Mais l'artiste, justement, qui va prendre en âge, etc., et qui va pas s'adapter. Parce que finalement, le public rap, c'est un sport de jeunes, tu vois. Donc, est-ce que le gars, l'artiste qui aura peut-être 10 ans de carrière, etc., qui aime suffisamment le rap, mais qui aime que le rap de son époque, est-ce qu'à un moment donné, il va pas se retrouver bloqué avec son public de l'époque?
Mais non, tu évolues.
Si le mec, il veut pas évoluer.
S'il veut pas évoluer, mais qu'il aime que le rap de son époque.
Il va décrocher automatiquement.
À un moment donné, quand t'écoutes un Soso, en plus, toi, Soso, après, tu vas me dire si je me trompe. Mais Soso, il a toujours été ouvert, par exemple. Déjà, musicalement, même quand t'écoutes les premiers albums. Sur des vibes d'électro, tout ça. Non. Donc, toujours été dans ce bail-là. Donc, toi, t'as déjà peut-être une ouverture qui va peut-être te permettre de te dire, t'es moins fermé que d'autres. Et même quand, par exemple, tu dis, bah, tu ramènes des Josman sur ton projet, il y a un feat avec Vladimir Cauchemar, déjà, t'as déjà peut-être cette ouverture naturelle d'esprit musical et cette lucidité. Mais si t'es fermé.
Ça, je l'ai depuis mon premier album.
C'est pour ça que je te
parle
de ça.
Et là, en vrai de vrai, à l'âge que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, je serai dans le déclin de la fin d'album. Moi, j'ai sorti mon album à la trentaine. Et ça fait que c'est pour ça que j'en vois tous les jours. Ouais. Mais je me regarde dans un miroir. Ouais. Je connais mon positionnement. J'aime me dire que j'ai pas fait platine sur Avec le temps. J'aime me dire que c'est Petrouchka qui a été la locomotive de mon truc. Mmh. Et qu'il faut que je travaille sur les morceaux. Non, j'aime me mettre la réalité en face. Et j'aime mettre en avant les points négatifs pour pouvoir bosser dessus et progresser dessus.
Toi, après, tu vas pas nous dire ce que c'est là, quelle est la suite, mais même que l'album marche ou ne marche pas là.
Ouais.
Est-ce que là, c'est pas le moment par rapport à justement cette longévité? Peut-être de réduire la voilure, de faire en sorte de ralentir.
Non.
Est-ce que tu veux encore enchaîner dans 12-18 mois?
J'ai sorti mon premier album à 32 ans, j'ai trop de choses à dire.
Ouais.
Mmh. J'ai trop de choses à dire.
Les Kery James, tout ça, quand ils commencent, ils ont des 20 ans.
Mais attends, je commence aussi à 11 ans avec la Mafia Kenfri.
Mais l'explosion, je te parle commercial.
J'ai ici premier album, 27 ans.
Ouais. Tu vois, comme quoi? Tu vois?
Après, moi, j'ai une question pour Soso. Est-ce que, tu vois, parce que tu reviens souvent sur ton âge et le fait que tu as sorti ton premier album après plus de 30 ans, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as peur? de quelque chose par rapport à la musique.
Le franchement, fait, ouais. Ce que j'ai vécu, hein, et en étant passionné de ce mouvement et amoureux, ce que j'ai vécu, jamais, au grand jamais, je n'aurais pu ne serait-ce que le rêver. Ça veut dire que si ça s'arrête demain, je garderai le meilleur au fond de ma tête et de mon cœur. À 32 ans, j'ai sorti mon premier album. À 32 ans, ma femme, elle est enceinte. Et je sors de prison. Enfin, non, je sors en 2017. Et je décide d'arrêter les conneries. Ça veut dire que je suis en galère totale dans ma vie. À 32 ans, je prends un pari sur ma vie. Et j'ai plus de chances d'échouer que de réussir. Mais encore une fois, on en revient sur ce qu'on raconte depuis le début, c'est la passion. À 32 ans, je me dis, je vais aller au bout. Et je vais y croire. Je te parle de... Je fais 1053 ventes première semaine. Ouais. Mais quand je fais 1053 ventes, je suis le plus heureux du monde. Je me dis, je vais aller au bout. Rescapé, il est bientôt hors. J'imagine. Mais à 32 ans, qui est finalement la fin, entre guillemets, des rappeurs qui ont commencé à 18 ans, ben moi, je commence la mienne. Et je mise toute ma vie, frère.
Mais sur ça, tu continuerais si, par exemple, demain... est-ce que tu es passionné au point de continuer la musique, comme on dit depuis tout à l'heure, si ça marche beaucoup moins, si tu fais plus hors, mais qu'en vérité, t'en veux un petit peu, ça te coûte pas cher.
Franchement,
Attends, j'ajouterai autre chose.
Je te poserai une question.
Est-ce que tu penses que ce serait la longévité de continuer sans gagner d'argent avec le rap?
Moi, je pense... Je pense que la question de... devra se poser.
La question devra se poser.
Après, je suis quand même quelqu'un... Tu me connais maintenant.
Bien sûr, ouais.
Je développe à côté. J'ai la série, j'ai créé un film, je viens de faire un reportage en Amazonie. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. J'ai la chance d'avoir cette curiosité et de pas se dire que toute ma vie, je vais aller rapper et dénoncer des choses que je ne vis plus forcément à l'heure d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, est-ce que nos sensei, moi je les appelle les sensei, les anciens, devraient pas à un moment donné essayer de se renouveler et proposer des choses différentes?
Switcher sur autre chose.
Et lui qui a réussi à le faire, c'est Fianso.
Ouais,
Fianso.
Ouais, bien sûr.
Fianso, c'est incroyable. Roulette.
Ouais. Cinéma. Le mec cinéma de partout. Ou tu vois, c'est ça. C'est,
donc,
c'est
alors longévité aussi, pour Fianso.
Mais encore une fois, c'est une question d'ouverture. Parce que lui qui fait aussi le cinéma, qui fait la mode. Ben...
En fait, il faut être complet. En fait, déjà, ta base d'être humain, il faut être intéressé par... Il y a les raisons, chroniqueur. Moi, je pense que c'est vrai que déjà, si de base, t'es pas intéressé par d'autres choses que le peura et que tu fais ça toute ta vie, si ça marche plus, si t'as que ça...
Hustler.
Tu vois ce que je veux dire?
Il faut avoir cette mentalité-là.
Cette mentale-là, fort.
Parce qu'aujourd'hui, alors moi, je prends les US aussi en référence et la France. Aujourd'hui, les rappeurs les plus vieux qui rappent encore, vous me corrigerez si j'ai tort sur la France, mais en tout cas, on est sur du 53 à peu près, tu vois. Je pense à IAM, Akhenaten.
Ah, ouais.
Il est à peu près sur ça, hein, je crois. Et ils ont sorti un album Rime Essentiel, je crois, il y a deux ans, je crois, quelque chose comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'un rappeur pourra avoir la longévité d'un chanteur de jazz ou de rock, c'est-à-dire aller au-dessus de 60, 70?
Et moi, je suis persuadé que oui.
Est-ce qu'en plus de ça, il pourra continuer à parler des sujets qu'il traite aujourd'hui? Par exemple, on prend l'exemple d'un Booba qui peut parler de rue. Est-ce que vous pensez qu'un artiste qui passe les 60 ans pourra continuer à parler? Ah oui,
60 ans. Tu vas loin là, Chris. Là, c'est.
Alors, on est sur la vraie longévité de chanteur de jazz.
Faut dire les termes là.
70 ans même, hein, si tu veux.
Les gars, on a trop intellectualisé le jazz, hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Le jazz, c'est
la rue.
Voilà, c'est la rue. Hein. C'est en France qu'on a trop intellectualisé le truc.
Pour moi, ça dépend en fait de l'auditeur et de ce qu'il est capable d'accepter et dans quelle
mais
posture
toi, en tant qu'auditeur,
tu vois,
un rappeur qui a 70 piges.
En fait,
il arrive avec son dernier freestyle drill. Tu dis quoi?
En fait, c'est que si je suis en mode. Je suis conscient de la réalité et que je me dis, ce qu'il me raconte, c'est pas vrai.
Ouais.
Mais vas-y, il est en train de le raconter bien. Il
est-ce que c'est authentique à 70 ans?
À 70 ans, on parle pas de réalité. À 70 ans. Ouais, mais frérot, 70 ans, tu me dis, une balade de Booba, tout au Tuccine, chanter, ça peut claquer.
C'est ça.
En fait,
c'est,
tu vois ce que je te dis?
En fait,
et
c'est
Renaud,
quel style? En fait,
et Johnny.
C'est ça.
Arrêtez,
en fait,
c'est le rap.
Non, mais justement, il compare. Il dit, est-ce que c'est les.
En fait, c'est, voilà, c'est quel style tu vas me proposer et de quoi tu vas me parler?
On revient toujours à la musique, là-bas.
Tu vois, c'est.
Exactement.
On revient toujours à l'œuvre en elle-même.
Oui, et le succès de l'œuvre.
Ah, toujours le top. Si à 100 ans, t'es pas dans le top.
Aux États-Unis, c'est qui, là, qui est le taulier un peu âgé?
Un peu âgé, bah, ouais. T'as Jay-Z.
On parle de
bah
top.
Après, hein. Ça fait 3-4 ans qu'il a pas fait d'album.
Mais là, s'il sort, est-ce qu'il est dans le top?
Il produit tellement en ce moment. Donc.
Non, mais en fait, ça dépendra de l'assise qu'il avait déjà au départ. En fait. Mm. Tout à l'heure, comme tu disais, IAM, ils faisaient 1 million, maintenant ils font 50 000 et c'est très bien, parce que c'est encore, les 5% qui sont prêts à les suivre. Et peut-être que, allez, même si sur ces 5%, à 60, 65 ans, il leur reste encore plus que 2%, ça fera toujours encore 20 000, tu vois.
Ouais.
Mais je pense que ça dépend de ce que tu as réussi à ancrer au départ. Par contre, tu vas pas faire de nouveaux auditeurs à 60 balais, ça, j'y crois pas.
Après, il restera la passion. La passion, le mec est multimillionnaire. Oh et qui se dit le 24 décembre ou le 25 décembre, je vais envoyer un son comme ça en plateforme.
Pour l'amour du hip-hop.
Pour l'amour du hip-hop.
C'est un
capitaine. Tu peux toujours le faire.
Il y aura de l'intérêt, mais bon, il y a beaucoup de jeunisme dans le rap. Ça veut dire que
c'est
moi.
Ça.
Bah, c'est ça.
Mais dans le rock aussi à l'époque.
À part ceux qui arrivent à passer les époques et qui gardent une petite fanbase, même si elle s'est amoindrie, ils pourront peut-être continuer. Mais pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'âge, la jeunesse, le fait que passer un certain âge, il y en a qui ont lâché le rap. Et ça, c'est vrai. Déjà, moi, je vois. Beaucoup de potes à moi qui écoutaient énormément de rap à l'ancienne, aujourd'hui, ils n'en écoutent plus.
Ouais.
Il y en a plein qui n'écoutent plus.
Mais ils écoutent quoi?
Je me dis...
Ils réécoutent.
En fait, ils réécoutent.
Du reggae, toi.
Ils réécoutent des trucs à l'ancienne, tu vois.
Et mais, toi, il dit quoi vrai, dit du reggaeton.
Je me dis... Et c'est ce que je leur dis à chaque fois. J'ai dit, mais en fait, les gars, vous aimez pas le rap. Vous aimiez un rap.
Ouais.
Et c'est pour ça que je disais qu'il faut être ouvert et que souvent, ceux qui arrivent à passer les époques, c'est ceux qui aiment réellement le rap, qui sont vraiment des bousiers, des passionnés, qui restent pas ancrés dans un truc fermé, propre à une époque, et c'est comme ça qu'ils arrivent à passer le truc, tu vois.
Après, chroniqueur, ce que tu dis, juste, je dis un truc, Flo, ce que tu dis, je comprends, mais à leur décharge, tous autant qu'on est autour de cette table, on évolue dans cette industrie, c'est notre métier, donc en fait, on en parle tous les jours, donc c'est plus facile de rester accroché. Je pense que des
qu'on
gens
doit
qui...
s'adapter.
On doit s'adapter. Nous, on doit s'adapter. Il y a une nécessité professionnelle aussi.
Je pense que c'est épuisant, le rap, aujourd'hui. C'est tous mes potes qui écoutaient du rap en même temps que moi quand j'étais au lycée, et qu'on choisit des voix différentes de la mienne, tu vois, ils ont quasiment tous arrêté d'écouter les nouveautés. Parce qu'on a trop tout le temps, etc. Et une des questions qui va se poser de la longévité des rappeurs, est-ce qu'à un moment, on va pas avoir un public de vieux auditeurs qui va se développer avec des rappeurs qui font du rap pour eux, tu vois? Bah, en fait, assez peu, parce que finalement, les rappeurs, ils arrêtent à cause de cette histoire de compétition. Il y a assez peu de rappeurs qui assument et qui font du rap, entre guillemets, pour les vieux auditeurs, tu vois. Et
est-ce que le dernier album de IAM, c'est pas le cas?
Mais ils sont peu nombreux, tu vois. Genre, IAM, en vrai, la plupart, ils ont soit arrêté, soit essayer de faire du jeunisme. C'est la question du jeunisme, en fait. C'est est-ce qu'à un moment, Booba, à 60 ans, il fera du rap qui parle aux mecs qui ont entre 40 et 60 et non plus aux jeunes qui ont entre 20 et 25, tu vois?
Parce que c'est tout le challenge, finalement, avec Booba, qui veut toujours toucher les 18-25. Est-ce qu'à un moment donné, il va évoluer?
Est-ce qu'à un moment, il va dire, vas-y, je touche les vieux et il y aura suffisamment de vieux? Parce que, aussi, il y a un truc, c'est que si tu touches que les vieux, t'arrives pas à vivre.
Les vieux, ils auront décroché.
Et sauf si
les gars, sur le Stade de France, là, vous allez voir, ça va être un mix de plusieurs générations.
Quand tu vas en concert, est-ce que tu vas pour écouter les anciens trucs qu'il a fait, tu vois, c'est aujourd'hui, est-ce que dans les stades des mecs qui écoutent les albums actuels Booba, t'as beaucoup de vieux? Je pense pas. Je pense que c'est
un peu plus jeune. C'est quel âge?
Plus de 35-40 ans. Les mecs ont l'âge de Booba. Est-ce qu'il y a beaucoup de mecs qui ont 43 ans qui écoutent encore Booba, tu vois? Pas tant que ça, je pense. La majorité des mecs qui doivent avoir moins de 30 ans, tu vois.
Ils doivent écouter les anciens morceaux, etc.
C'est ça. Il y a des mecs, par contre, qui sont bloqués encore dans l'époque temps mort, etc., et qui continuent à réécouter. Mais c'est pas là-dessus que t'arrives à faire une carrière, tu vois.
C'est ce que je veux dire.
Oui, ils bougeront le voir en concert, mais pour écouter.
Pour avoir les anciens morceaux, tu vois.
En gros, c'est l'exemple de Rof, tu vois, qui, quand il annonce son Bercy, qu'il l'appelle le Classic Tour. Tu vois, genre, moi, par exemple, ça me parle. Tu vois, parce que je me dis, Classic Tour, ça veut dire qu'en fait, il va revenir avec. Enfin, il vient avec tous ses classiques. Ça m'intéresse d'y aller.
Ouais.
Tu vois, mais si.
Toi, ça t'intéresse d'y aller. Ça... Ah, mais moi, ça m'intéresse pas d'y aller.
C'est vrai?
Tu sais pourquoi? Parce que pour moi, j'ai l'impression de, comme c'est vendu, que ce soit un genre de.
C'est un best-of.
De best-of, nostalgie, machin.
Mais pour moi, c'est comme un jubilé. C'est un jubilé.
C'est un jubilé, toi?
Ben, tu vois, c'est. Même si je sais que je vais kiffer et que j'ai saigné les sons.
Mais quel est le problème?
Je sais pas.
C'est l'approche, en fait. C'est l'approche.
Je me trouve.
Est-ce que tu irais à un Bercy. Enfin, est-ce que tu serais tenté d'aller à un Bercy de Rof?
Sur son dernier
projet. Non.
Bah voilà.
Okay. Et du coup, est-ce que à choisir entre les deux Bercy?
Ben j'irai à m'écouter les classiques.
Voilà.
Mais dans la communication, comme c'est amené.
Ça te plaît pas?
Ça, on dirait que c'est nostalgie partie 80. Tu vois?
Oui, mais je pense qu'il l'a fait volontairement parce qu'il savait bien que s'il voulait.
En fait, fallait qu'il touche cette cible-là.
Là où il y avait plus de monde, c'est sur ceux qui écoutaient les classiques, plutôt que ceux qui écoutent l'actuel. Et c'est intelligent de faire ça, tu vois, de se dire, c'est comme les mecs qui font des tournées anniversaires 20 ans après, tu vois. Alors qu'ils ont des albums récents. Ils vont tourner sur un album qui a 20 ans parce qu'il y a plus de chances de ramener du monde, tu vois.
Et du coup, moi, je voulais parler aussi d'autres artistes qui ont disparu, qui ont décidé de leur plein gré d'arrêter leur carrière pendant un moment et de revenir. Je pense par exemple à un artiste qui, personnellement, j'aime beaucoup, Nesbill, qui est revenu récemment avec un projet. Qu'est-ce que vous pensez globalement de ces artistes qui font un comeback? Pour le coup, il a fait plus de 3000 ventes à peu près la première semaine. Je ne sais pas trop comment les ventes se portent en ce moment, mais c'est plutôt un retour qui est honorable. Qu'est-ce que vous pensez globalement du retour des artistes? C'est dur?
Ouais, c'est très dur.
Ok.
Il n'y en a pas, enfin, en tout cas, tous les exemples que j'ai en tête, les gens qui ont arrêté un moment et qui reviennent, c'est dur.
Non, mais le public, il a une responsabilité sur leur, sur ses retours. Parce qu'ils sont là à leur monter la segue. Il faut que tu reviennes, tu reviennes. Après, ils sortent des projets sans battre les couilles.
Non, mais comment
Allez, des fous, les gars.
Ça va partir au Yux, là.
Mais c'est vrai, frérot.
Je suis grave d'accord avec Soso parce que t'as vu l'exemple type de Nesbill. T'as vu, c'est il y a Nesbill, les gens aiment parler de McTayer, ils aiment parler de Despo Routy.
Salif,
en fait, ils sont des artistes. Salif, ils aiment, enfin, ils aiment. On aime parce qu'on est aussi les médias, tu vois, et c'est nous aussi qui contribuons à ça, faire des articles, faire des vidéos, parler de roi sans couronne, etc. Mm-hmm. Et en fait, on crée toute une hype autour de ces artistes, comme quoi, au moment où ils étaient présents, on les a pas récompensés. Donc maintenant, tout le monde veut leur retour parce que ça nous manque, etc. Mais au final, quand ces mecs-là sortent, tu vois, moi, quand je vois Nesbill faire 3000 premières semaines, peut-être que lui, il est content, son équipe, ils sont contents, tu vois, et c'est respectable, c'est mortel pour eux. Mais je me dis, mais pourquoi ça fait pas plus, en fait?
Ouais, tu vois, moi aussi, on en parle pendant 10 piges. Justement, l'audience de Nesbill qui était très active entre 2005 déjà, et 2012.
On parle de roi sans couronne, c'est-à-dire qu'il avait déjà une petite audience à l'époque.
Oui, c'est
Il faut pas, en fait, c'est. Je pense qu'il y a, il y a plusieurs problèmes. C'est qu'en vrai, la part des gens qui reviennent, c'est rarement des mecs qui ont pété le score à l'époque. Tu vois, en vrai de vrai. Nesbill, on dit roi sans couronne.
Il y avait Nesma,
on parle. McTayer, on dit roi sans couronne aussi.
Salif,
on dit roi sans couronne. C'est des mecs, c'est pas des mecs qui faisaient un million de ventes et qui reviennent et qui vont refaire un million.
Ouais, mais parce qu'ils étaient dans une époque aussi où pas grand.
Où c'était dur.
Voilà.
Où c'était dur.
Vous savez quoi? On va faire mieux.
Ah, on va l'appeler. Ce serait incroyable.
T'appelles qui?
C'est incroyable.
Nesbill?
C'est qui?
Y'a que Chris qui peut nous dire.
Mais non, moi. Frérot, ça va quoi? Tu as vu le maillot de Paris?
C'est incroyable.
Mais c'était après regarder un film.
C'est un truc. C'est le général.
Ah non, frérot.
Le général.
On est en train de tourner. Génial. Et allez,
Brother. Socrate l'ancien, ça va ou quoi? So, tranquille, peut faire, cool.
C'est un frérot, ça va ou quoi?
Il y a toute l'équipe, ça va ou quoi, frérot? Eh, c'est pas iconique.
Ouais, c'est moi. Tu as percé, hein?
Il y a grave des trucs, t'es pointu, hein.
Ah, merci, poto.
Eh, j'arrive pas à te contredire, hein.
Faudrait que tu viennes, faut que tu viennes, là, sur Dis les termes, là. Grand fan de Tandem, de tout ce que tu fais.
On dit que du bien de toi, frérot.
Ah, merci, moi. Merci beaucoup.
Et là, j'ai une question à te poser.
Putain, je suis content.
Est-ce que tu penses que c'est ça? Est-ce que c'est péjoratif d'appeler quelqu'un un roi sans couronne?
En fait, qu'est-ce qu'il pense des rois sans couronne?
Qu'est-ce que tu penses des rois sans couronne?
Ouais, c'est péjoratif parce que c'est comme si tu te mets à la place de l'artiste et de ses ambitions. Et de ses choix. D'un côté, c'est bien parce que c'est comme s'ils veulent reconnaître que tu as ton talent, hein. Mais moi, pour parler de ma personne à moi, si j'aurais voulu avoir une couronne, j'aurais pris un autre chemin.
Ok, magnifique. C'était le général, on applaudit s'il vous plaît, les gars. Attendez.
Et tous ceux qui me connaissent personnellement, donc là, je sais qu'il y en a qui me connaissent personnellement, là,
Le sou.
Ils me connaissent. Ouais.
C'est vrai, je vous ai dit.
Ah, mais t'as des interviews classiques.
Ouais, ouais. So, c'est ça, parce qu'il a choisi sa carrière.
Ouais, non, mais il l'avait dit dans une interview.
Mais attendez, mais les gars. Bien.
Interview rappelite classique.
Dis-lui ce qu'il t'a dit, ton ami. C'est quand que tu vas être au top?
C'est maintenant.
C'est maintenant, frérot. C'est maintenant. Je le sais, moi, brother. Oh putain. Oh, brother, je t'embrasse. On s'appelle après.
Ciao. Merci beaucoup.
Vas-y, le saut.
Il faut que tu viennes.
En fait, c'est grave intéressant. Tu vois, McTayer, ça fait partie des artistes qui a toujours été cité dans tous les articles, ouais, comme un roi sans couronne. Il n'a pas été récompensé, etc. Mais c'est intéressant de voir que lui, il voit ça comme un terme péjoratif.
Parce que lui, il est en phase avec sa carrière.
Alors qu'on pourrait croire que eux, dans leur posture, ils sont en mode, ah, il me voit comme un mec à qui il manque la couronne, faut qu'on me donne la couronne. Ouais. Mais en fait, il voit ça comme un truc, genre, c'est guess de ouf, en fait.
Mais du coup, c'est bien de prendre son exemple. Pour le coup, il a des morceaux où justement, il était en avance un petit peu sur le rap français. Enfin, moi, j'ai parlé du général, mais quand tu regardes,
à l'époque de Hat-Trick,
qu'il avait sorti, etc.
À l'époque de Hat-Trick.
Il sort d'une période où il est très street, il arrive avec un single comme ça. Finalement, il y a l'électro qui arrive aux US, lui, il arrive, il voit le truc, il lance le morceau et le public n'est pas prêt à ce moment-là. Est-ce que, justement, le fait d'avoir
t'as
été trop
avant-gardiste... T'as Marouaz de Rof aussi qui lui fait...
Exactement. Il y a aussi
qui lui fait pas du bien.
Un Socrate, les choix qu'il fait, il les assume, parce que je pense que ça fait partie de ces artistes qui ont une vision aussi, qui ont une vision d'eux-mêmes et de ce qu'ils veulent proposer. À un moment donné, il a fait des choix, il a pris des risques, et aujourd'hui, je pense pas qu'il dirait, je regrette d'avoir pris ce risque-là.
Non.
C'était ce qu'il voulait faire à ce moment-là. Après, à un moment donné, tu proposes, et les gens, s'ils sont dedans, tant mieux, sinon, tant pis, toi, tu continues ton chemin. Moi, je pense qu'un artiste, pour avoir fait beaucoup d'interviews d'artistes, je pense qu'il y a aussi un côté, je sais pas, un peu égoïste. Bien sûr que tu le fais aussi pour ta fanbase, pour leur faire plaisir, etc. Mais tu fais comme tu ressens les choses. C'est un peu émotionnel aussi. Si t'as envie de faire ton truc, tu le fais. Et à un moment donné, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand on parle de longévité musicale, c'est que, pour moi, à un moment donné, c'est que le mec a géré sa carrière. Aujourd'hui, il est là où il doit être, selon lui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense pas qu'il y ait de la frustration. Peut-être qu'il y a des choses que tu pouvais mieux faire au coaches, mais il est là où il devait être. Il est en phase.
Nico. Après, pour rejoindre Kirsch, après un artiste comme Mac Taylor, tu vois, il prend des risques qui n'ont peut-être pas pris, qui n'ont peut-être pas fonctionné, mais quand même derrière lui, il y a un bagage et il y a des classiques qu'il laisse, tu vois. Parce qu'un artiste, il peut pas aussi arriver. Et arriver juste avec des prises de risques, et on se dit, ah, il prend des risques, et il est juste pas dans... Enfin, il a testé, ça a pas marché, etc. Tu vois, il a quand même laissé des trucs derrière lui, il prend des risques, ça marche pas, mais ça restera toujours le général qui a fait Patrimoine du Ghetto.
Il a une mentalité de hustler. Ça veut dire qu'au-delà de la qualité musicale qu'il nous propose, il se développe dans d'autres business. Sa marque Untouchable, c'était incroyable. De partout, tu voyais ça. Et moi qui le connais, et avec qui on échange beaucoup, c'est quelqu'un qui est conscient. C'est quelqu'un qui est conscient de sa personne. Lui, il sait se voir dans le miroir. Et je pense que son climax, il est maintenant. Pourquoi il est maintenant? Parce que c'est le seul qui arrive à faire la passerelle, tu sais, entre quoi et quoi? Entre la rue et la hype.
Il y a la musique, il y a les classiques que tu as pu laisser, et il y a l'influence aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes, attention, c'est juste ça que je voulais préciser, qui parfois n'ont pas forcément eu des carrières oufissimes en termes commerciaux. Et comme il dit chroniqueur aussi, c'était une époque qui était dit différente, il n'y avait pas de streaming, on n'était que dans du physique, le physique se casse la gueule. Donc il y a un succès, il y a un enchaînement des choses qui fait que ils n'ont pas eu des gros succès commerciaux, mais finalement, ils ont beaucoup influencé la nouvelle génération. Des gars comme Mac Taylor, des gars comme Salif, Nesbill ont influencé la nouvelle génération. Après, je pense pas que Soso, on va pas le mettre forcément dans la nouvelle génération, mais en termes d'âge, il s'est fait aussi influencer, je pense, par des artistes qui, des fois, peut-être, n'avaient pas pété commercial.
Au-delà de ça, tu vois, des artistes comme Mac Taylor, au-delà de leur musique, ils ont aussi marqué le rap français, et c'est un truc qui manque aujourd'hui, je trouve. C'est Tora, cette communication, des interviews, tu vois, quand on l'a eu au téléphone, je dis direct... Kirsch, Rappelit, Mac Taylor, interview classique, tu vois, parce que quand il prend position, il dit, après, erreur ou pas erreur de sa part, tu vois, mais il dit, je veux que la France, elle rebrûle comme en 2005, etc. Tu vois, c'est une prise de position forte où, à un moment donné, le public, il s'identifie à ça, il dit, c'est le général, il a dit ça, truc, machin. Et du coup, il revient sur le devant de la scène, peut-être pas par sa musique, mais par une prise de position forte, et c'est pas tous les artistes qui maîtrisent cet art de la communication comme lui, parce que tu vois, Mac Taylor, tu vois, dès que tu le vois, tu lui dis, ouais, bah, on aimerait bien t'avoir ici, parce que tu sais pertinemment que ici, bah, il va savoir parler, il va savoir dire les choses. Donc, s'il y a de la musique...
Au-delà de la musique, il y a le charisme.
Voilà, c'est ça, tu vois. Et tout ça, bah, au final...
Ce que tu représentes.
Voilà, et tout ça, bah, ça s'ajoute à notre truc de base, c'est la longévité. Bah, il te faut tout ça aussi, tu vois.
Non, c'est
pas
clair.
Que... La musique peut te servir, mais si tu as tout le packaging, tu tiens encore plus longtemps.
C'est clair. Bah, moi, je voulais revenir justement sur toi, parce que finalement, comme tu disais, tu as sorti ton premier album il n'y a pas si longtemps que ça. Et, mais pourtant, musicalement parlant, quand on écoute ton dernier projet, on sent en fait que finalement, tu fais la passerelle entre ce qui est l'époque d'avant, c'est-à-dire quand on a grandi, etc. Genre tout ce qui va être freestyle long, je pense aux morceaux Zombie Café, etc. Ouais. Et des morceaux beaucoup plus récents qui vont toucher les jeunes. Est-ce que toi, aujourd'hui, quand tu fais tes albums et quand tu le construis, tu te dis, OK, il faut que je fasse des sons qui touchent les jeunes, un petit peu, et aussi des morceaux qui te ressemblent plus, des morceaux avec lesquels tu as grandi, que tu aimerais avoir dans ton album, tu vois, sans refrain, sans rien, et des morceaux plus denses.
Sérieusement, quand je fais un projet, à aucun moment, je me dis que je vais remplir des cases. D'accord. À aucun moment. C'est pour ça que, je sais pas si vous avez eu la chance d'écouter mon prochain album, là, qui sort le 10 juin, j'ai essayé de faire l'album le moins générique possible, avec des prises de risque, de la dubstep, des trucs très différents, des samples, des meufs de l'opéra, nanani, nanana. C'est pour ça que je pense que je fais parler mon cœur dans mes projets. Mm-hmm. Quand je parle avec ton cœur, sans forcément de stratégie, après, oui, bien sûr, tu sais quels sont et à un potentiel. Un potentiel radio et un potentiel breakable. Mm-hmm. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais en aucun cas, quand je fais mon projet, je me dis là, je vais faire le son de ci, là ou le son de ça. Parce que j'ai appris de mes anciens projets. Tu vois ce que je veux te dire? Lui, c'est l'album le plus artistique que j'ai pu faire. Tu vois?
Ok.
Maintenant, moi, j'ai une question pour vous. Je ne me permettrai pas de répondre, mais je vais inviter les gens qui regardent l'émission de répondre en commentaire. Comme ça, tu vas monter dans les tendances. Écoute, maintenant...
On va dire les termes.
Ils ont un âge à peu près similaire. Pour toi, dans ta vie, tu préférais être un Lino ou un Algérino?
Pour moi, dans ma vie, je pense que je préférais être un Algérino. Pourquoi? Je m'explique, parce que c'est le truc où on se dit tout à l'heure, peut-être que Lino, à côté, il a développé des projets, des business, j'en sais rien, tu vois, je connais pas la carrière de Lino, qui fait que peut-être il vit très bien à côté, ouais. Tu vois, mais si je prends juste en carrière artistique, aujourd'hui, je pense que la carrière de l'Algérino lui permet de plus vivre que celle de Lino, et du coup, je dois manger, je dois nourrir, je dis pas que Lino ne mange pas, attention, mais de ce que je vois de l'Algérino, il doit bien manger, il doit bien prendre par-ci, par-là,
très bien.
donc je me dirais l'Alger, tu vois, mais juste en parlant musique. Tu vois. Et après, si tu me dis Lino à côté, il a deux hôtels là-bas, truc, ouais, là, ouais. Je vais dire Lino. Mais en vrai, l'Alger, je pense.
Bah, moi, je pense que là, il n'y a pas tellement de suspense. Moi, je préfère être Lino.
Putain, je voulais qu'ils disent l'Alger.
Mais non,
comme ça, va mener ma Bella avec le chroniqueur sale, là, ça aurait été lourd.
Si je veux faire le malin, tu vois. Non, après. En fait, non, je préfère être Lino.
Musicalement ou...
Ben là,
c'est un peu. Il faut toujours qu'il pose une question sur
les
une
gars,
question.
Les gars. De coupe de cheveux. Est-ce que tu veux la banane à l'Algérino ou le Borsalino?
Bah, alors, déjà, moi, pour ce qui me concerne, moi, Lino. Vas-y. Parce que la manière dont tu marques ton art, voilà. La manière dont les gens vont parler de toi dans les époques, etc., ça vaut largement l'argent. Okay. Après, comme on a dit, et surtout le rap en particulier, il y a beaucoup d'hustlers. T'es pas obligé de faire beaucoup d'argent dans le rap. Tu peux le faire autrement. Et clairement Lino, ouais, donc Lino.
Je réfléchis, hein. J'ai pas encore la réponse, les gars.
T'as pas encore la réponse.
Cœur, j'arrête.
Les petits soubifs, tu penses à l'art, tu vois. Et là, tu
cherches. Cœur, c'est ça le truc.
Les petites chemises Versace, ça se refuse pas, hein.
Ah, les gars,
c'est la vérité.
Donc pour ça, je vais dire Lino. Avec pour ça, je vais dire Lino. Et pour un vendu. Pour ça, bien
dans moi, l'Alger, en vrai, hein.
De quoi?
Moi, l'Alger, en vrai. Ah, parce qu'on parle de longévité, en vrai, le mec,
il est encore
aujourd'hui,
il est
moderne.
De longévité. Il est encore là.
Ouais. En termes de longévité, typiquement, on prend l'exemple des mecs qui ont une longévité ou pas. En vrai de vrai, Lino, il a pas fait de longévité de ouf.
Oh.
Bah, c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as un album? Il sort plus d'album, il sort plus de trucs, tu vois. Donc, en vrai, ouais. Si on parle de longévité, si ton but, c'est de durer dans la musique que t'aimes, alors peut-être que t'aimes plus la musique de Lino que celle de l'Algérie.
En fait, c'est les goûts. C'est les goûts.
Gilles, c'est le dernier. Entre les deux, je pense que c'est lui qui a la dernière certif.
Ouais.
Parce qu'il en a une il y a 6 mois.
Largement, tu vois. Et donc, à un moment, c'est ça, tu vois.
Bon, en tout cas, je ferais de l'argent autrement, disons.
Oui, mais
après, je respecte beaucoup
le travail. C'est facile de dire si, mais je rajoute ça, tu vois.
Bah oui, mais c'est comme ça que je ferais le truc.
Bah non, parce que c'est pour ça que je dis oui, mais si tu me dis que Lino à côté, il a 3 hôtels et que truc, bah ouais. Forcément que
et
je
moi, vous savez qui je serais? Je serais l'Algélino.
Tu voulais juste le dire. Tu voulais le placer.
Non, même pas,
Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour du débat. Hein. Merci à vous. Hein. C'était génial. Sousomanes, c'était un grand plaisir de t'avoir.
Moi, j'aime ça.
On veut te revoir. Hein. Je pense qu'on a d'autres sujets. Tu sais ce qu'on devrait faire, en fait? On devrait décider ensemble des prochains sujets quand tu viens. Comme ça, on va débattre
si
encore
j'ai
mieux.
Le temps. Je dois faire des showcases.
Ah, hein, la quiche, t'as pas compris. Il est là pour la quiche. Même pas compris, lui. Il est là pour la quiche, là.
Ah, c'est ça.
Il a dit l'été.
T'as ton prochain projet qui sort le 10 juin.
Le 10 juin. Je suis content. Je pense que c'est l'album le plus abouti que j'ai fait dans ma carrière. Très cinématographique par moment donné. J'ai tenté des choses, j'ai des featurings avec des gens que j'aime, autant musicalement que humainement. Ça s'appelle La Lobe, ça sort le 10 juin. Je reviens de l'Amazonie.
D'ailleurs, allez voir ça, hein. C'est directement sur ta chaîne YouTube.
Faut le dire.
Bah, merci à vous, hein. J'espère que vous avez apprécié cette discussion sur la longévité. On a essayé de ratisser large, donc n'hésitez pas à nous donner votre avis directement en commentaire, likez la vidéo et partagez un maximum. C'était Chris d'Iconic pour Bouscapé, pour Deal et Terme. Cheers.
Merci à toi d'avoir écouté en entier ce nouvel épisode de Deal et Terme présenté par Bouscapé. Abonne-toi au podcast Deal et Terme sur ta plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode. Pour que le podcast remonte dans les classements, tu peux aussi nous laisser une bonne note. Une fois que c'est fait, n'hésite pas à aller découvrir les autres podcasts de Bouscapé.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.